Le psalmiste pouvait dire une chose que je désire ardemment. Je désire habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Je ne sais pas pour vous, des fois je me dis, j'aimerais que chaque jour quand je me lève, je vive ce moment de louange. Et je crois que c'est possible en fait. Chaque jour, vivre la présence de Dieu, c'est une réalité. La Bible nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les dimanches. Ah pardon. Chaque matin. Et chaque matin, tu peux être au bénéfice de la présence de Dieu. Et c'est une telle grâce. Alors, on a la joie d'accueillir des nouveaux au milieu de nous. C'est avec beaucoup de joie qu'on vous accueille. Et peut-être vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette église ? Mais c'est simplement une église qui vit ce que la parole de Dieu nous dit. Où on peut s'accueillir les uns les autres, où la présence de Dieu nous accueille, où on est là et on se réjouit et on passe des bons moments. Et je prie que si tu es nouveau ce matin, tu puisses dire, mais il y a autre chose ici. Et ce n'est pas à cause des gens, c'est parce que Dieu est présent. Amen. On est toujours dans notre thématique ce matin, depuis quelque temps, sur la dimension de l'accueil. Sur le fait de s'accueillir les uns les autres, de se rejoindre les uns les autres. On a parlé de se rejoindre dans le vocabulaire qu'on va utiliser les uns envers les autres. On a parlé de s'accueillir les uns, de prendre soin des uns des autres. Et je bénis Dieu de ce que l'EPI est une église qui sait accueillir. Parce que ça fait un an et demi que je suis là, et vous m'avez accueilli. Bien. Et avec beaucoup de joie, on est là. Mais j'aimerais, ce matin, aller dans un thème que Dieu a mis sur mon cœur depuis quelques semaines, sur la notion de l'accueil, mais peut-être un autre angle d'attaque de l'accueil. Vous savez que accueillir, c'est faire preuve de beaucoup de joie. C'est dire, on est content de vous accueillir, on est content de vous avoir au milieu de nous. On bénit Dieu pour l'équipe d'accueil qui est là, qui le grand sourire, qui vous tend la main, et ça fait du bien. Maintenant, la question que j'aimerais me poser, et c'est le thème de mon message ce matin, est-ce que je suis prêt à accueillir le plan de Dieu dans ma vie de la même façon que je suis prêt à accueillir les gens dans l'église? Moi-même, je me pose la question. Est-ce que je suis prêt à dire, avec beaucoup de joie, Seigneur, merci pour le plan que tu as tracé sur ma vie. Merci pour le chemin par lequel je suis en train de passer. Est-ce que je suis prêt à accueillir de la même façon que j'accueille quelqu'un, la direction de Dieu sur ma vie? Et j'aimerais vous dire que si il est, on peut accueillir avec un grand sourire les gens, accueillir avec beaucoup de joie le plan de Dieu n'est pas forcément quelque chose de facile. Parce que tout ne se passe pas toujours comme on le voudrait. Est-ce qu'ici, il y a des gens dont tout ne se passe pas toujours comme on le voudrait? Voilà, et ben je continue à prêcher parce qu'on est tous dans le même bateau, les amis. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur comment accueillir le plan de Dieu. Je crois que Dieu a une direction pour chacune de nos vies, que Dieu connaît les chemins par lesquels tu es en train de passer maintenant, que Dieu connaît la maladie, que Dieu connaît les tristesses, mais que Dieu connaît aussi les bons moments de ta vie. Je suis intimement persuadé que Dieu sait exactement le chemin par lequel tu es en train de passer. Maintenant, la question c'est, est-ce que je suis prêt à accueillir ce que Dieu me demande? Et là, ce n'est pas le même problème. Vous avez déjà entendu peut-être beaucoup de prédications sur des prédications qui disent « entrer dans sa destinée ». Entrer dans sa glorieuse destinée. Ok, comment j'entre dans ma destinée quand je ne peux pas bouger, je suis handicapé? Comment j'entre dans ma destinée quand je suis bloqué dans ma vie? Comment j'entre dans la destinée quand mon quotidien me rappelle qu'il y a des blocages dans ma vie? J'aimerais vous parler non pas d'entrer dans votre glorieuse destinée ce matin, mais d'entrer et d'accueillir le plan de Dieu pour votre vie. C'est pas exactement pareil. Parce que glorieuse destinée peut nous donner une idée de « Wouhou, ça va être merveilleux !» Mais beaucoup ici savent que ce n'est pas si merveilleux que ça. Pour autant, le plan de Dieu est juste extraordinaire quand on entre parfaitement dans ce que lui a prévu pour nous. Amen. Permettez-moi de vous lire ce texte qu'on va partager ensemble, qui va être notre texte de référence durant ce message. Matthieu 21, 28 nous dit « Que vous ensemble, un homme avait deux fils. » Et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Et là, j'ai l'impression de me retrouver un peu des fois. Il répondit, « Je ne veux pas. » Et ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » mais il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Et ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Voilà notre texte de référence sur lequel on va travailler ensemble. J'aimerais vous partager ce matin 7 principes. En fait, j'ai fait 5 avec ma main, mais il y avait mes deux doigts qui étaient là. 7 principes pour accueillir le plan de Dieu dans notre vie. Pour savoir, mais finalement, quels sont, pourquoi j'ai du mal. Et comment je dois travailler à l'intérieur de ma vie pour saisir que Dieu a un plan parfait et que je veux entrer là où Dieu veut que j'aille. Et le premier point que j'aimerais aborder avec vous va nous amener au contexte de ce texte. Jésus est en train de parler à qui ? Jésus ici s'adresse aux sacrificateurs et aux chefs de la synagogue, aux anciens du peuple, la Bible dit. Et alors que Jésus est en train de faire des miracles au milieu du peuple d'Israël, il se passe quelque chose, c'est que les gens vont dire « Par quelle autorité fais-tu cela ?» D'une autre façon, il dit « Mais de quel droit tu te permets de faire des miracles ? Quelle autorité t'a été confiée pour que tu fasses des miracles ?» La vraie problématique ici, c'est que les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple ont un vrai problème avec l'autorité de Jésus. Pourquoi ? Parce que la question, c'est la légitimité de Jésus ici. Qui est Jésus pour être celui qui accomplit les prophéties de l'Ancien Testament ? Jésus n'est-il pas le fils de Joseph le charpentier ? Quelle est l'autorité de Jésus ? En quoi Jésus a-t-il le droit d'agir ? Et c'est ça qui pose un vrai problème aux Juifs de l'époque. Et à ce moment-là, je crois que si on fait un parallèle avec notre vie, je crois qu'une des difficultés pour accueillir le plan de Dieu, c'est qu'on a du mal à comprendre pourquoi Jésus a le droit d'agir dans ma vie. Jésus a-t-il toute autorité dans ma vie ? Et après tout, j'ai le droit de faire ce que je veux. Pourquoi c'est Jésus qui a le droit de diriger ma vie ? Quel droit a Jésus d'intervenir dans nos vies ? Vous savez, le premier point qui bloque notre compréhension du plan de Dieu et notre acceptation et le fait d'accueillir le plan de Dieu, c'est le fait que accueillir Dieu, le plan de Dieu, c'est accueillir l'autorité de Jésus dans notre vie. Et tant qu'on bloque sur l'autorité de Jésus sur notre vie, malheureusement, tu bloqueras dans le plan de Dieu pour toi. Parce qu'au fond, tu n'es pas prêt à reconnaître que Jésus sait bien ce qu'il est en train de faire. Et entre nous, parfois, on a bien envie de dire à Jésus, « T'es pas en train un peu de te planter sur ma vie, là ?» Non ? Enfin, je sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive, en tout cas. Alors, comment Jésus va répondre à cette affirmation ? Ben, Jésus va prendre l'exemple qu'on a lu ensemble. Et il va dire, « Un homme avait deux fils. » La réalité, c'est que Jésus va répondre à la notion d'autorité par une notion de filiation. Par rappeler à ces gens qui doutent de l'autorité qu'il y avait un homme qui avait deux fils. C'est-à-dire, il y a un père qui a deux fils. Et en réalité, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que l'autorité que Jésus a, il l'obtient du père parce qu'il est directement lié avec le père. Et il montre à travers ce texte que l'autorité qu'il y a que l'autorité que Dieu a dans ta vie n'est pas un choix comme ça au hasard, c'est parce que tu es fils et fille du roi des rois. Et c'est dans ce titre-là qu'il a le droit d'agir dans ta vie. La Bible nous dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il y en a qui ont la foi en Jésus-Christ ici ? Amen. Et en effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus en Christ. Alors tu te poses peut-être la question, mais pourquoi Dieu me fait passer par là ? Pourquoi le chemin par lequel je suis en train de passer est-il si compliqué ? J'aimerais simplement pouvoir t'encourager en te disant que le fait que tu sois fils et fille du roi des rois donne à Dieu sa légitimité pour agir dans ta vie et qu'il y a une part que tu dois accepter malgré tout. Avec ma famille, on est 8 enfants et ça fait du travail. Et on avait la grâce de pouvoir partir en vacances régulièrement parce que mon papa avait acheté il y a très longtemps une maison en Bretagne. Et on faisait toujours, on habitait à Reims et on allait jusque le golfe du Morbihan. Et on faisait toujours les 7 heures de route pour traverser toute la France. Et je crois que c'est un des moments où je me souviens le plus de ma vie. Au moment où je me mets dans la voiture, je sais que ça va être long, mais je sais que je peux dormir, je peux manger, je peux me poser, je peux jouer avec mes frères et sœurs, je peux tout faire parce qu'il y a une personne qui conduit le véhicule. Et quand j'ai commencé à vouloir conduire et à faire les cours, mon père a toujours été le modèle. C'est un bon conducteur, mon père. J'aime quand il conduit, il est rassurant. Il me pose, il me rassure. Et je me souviens, on était là, on partait souvent très très tôt le matin pour qu'on puisse dormir, pour qu'il puisse faire le plus de route tranquille en fait. Ok, genre ça s'entend. À 8 enfants, ça s'entend. Mais ce que je me souviens, c'est qu'instantanément, une fois qu'il nous posait dans la voiture, tous les gamins, et on dormait. Mais tu peux pas dormir si tu sais que le conducteur, il est un peu... On est d'accord ? Si tu sais que ça craint un peu au niveau du conducteur. La réalité, c'est que de la même façon, dans le parallèle dans notre vie, on peut accueillir le plan de Dieu que quand on sait que le conducteur, il est serein, il est saint et il sait où il nous emmène. D'ailleurs, je me suis toujours été étonné comment mon père, il n'avait pas de GPS à la fin, à chaque fois, il était capable de faire toujours le même chemin. Je dis, mais je le connais le chemin, j'ai l'habitude. Ouais, mais moi je ne comprends pas pourquoi tu passes sur ce chemin. Parce que Dieu sait le chemin par lequel tu es en train de passer. De la même façon que mon papa connaissait le chemin. Le premier point est là. Accueillir le plan de Dieu dans ma vie passe forcément par cette première étape de reconnaître que Dieu est ton Père, qu'il sait ce qui est bon pour toi, qu'il a toute la légitimité pour t'accompagner dans la vie de tous les jours. Amen. Deuxième point. Accueillir le plan de Dieu n'est pas une question de légitimité humaine, mais de choix divin. J'explique. Parce que je vois qu'il y en a qui plissent les sourcils et disent « Qu'est-ce qu'il dit ?» Dans le texte qu'on a lu au départ, il y a deux groupes de personnes. Il y a ceux à qui Jésus s'adresse, c'est-à-dire au départ les pharisiens, les sacrificateurs, les anciens du peuple. Et puis de l'autre côté, il y a les publicains et les prostituées. Ça va ? Deux groupes. Légitimement, la promesse est pour le peuple juif. Pour ceux qui font partie de la lignée directement d'Abraham. Et Jésus, à travers cette parabole, va nous amener à comprendre que le plan de Dieu s'étend bien plus qu'au seul peuple d'Israël, mais il comprend le peuple d'Israël et le reste du monde. Il y a deux groupes, mais Dieu est en train de montrer que les deux sont des fils. Et il est en train de leur prouver qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que le plan de Dieu n'est pas une question d'une légitimité humaine, c'est-à-dire ce que les gens considèrent comme étant légitime, mais bien un choix divin de prendre l'ensemble, même les publicains et les prostituées. Regardez, les deux ont été choisis pour travailler dans la vigne. On parle bien des deux fils qui sont choisis pour travailler dans la vigne. On a donc la possibilité d'entrer pleinement dans le plan de Dieu. Regardez ce texte. Je ne vous appelle, c'est Jean 15,15 qui nous dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au père en mon nom, il vous le donne. J'aimerais peut-être simplement faire un point ici, en disant que peut-être des gens ne parient pas sur ta vie. Mais Dieu, lui, n'a pas fait un pari sur ta vie, il t'a choisi. Et que tu as la légitimité, parce que ce n'est pas une légitimité humaine, mais c'est une légitimité divine, qui vient de ce que Dieu t'a choisi pour entrer pleinement dans son plan à lui. Je me souviens, je vous partage cette anecdote, quand j'ai commencé à rentrer dans le ministère pastoral, pour moi, c'était impossible que les gens m'appellent pasteur. Parce que pour moi, le pasteur était tellement là. Et pourtant, il y a une année où, alors que j'étais dans la première église où on a commencé à s'engager avec mon épouse, et il y a eu cette année, à ce moment-là, où le pasteur qui était en place est parti et je suis resté tout seul pour m'occuper de l'église. J'étais accompagné par des présidents, mais sur place, j'étais tout seul. Et je disais aux gens, ne m'appelez pas pasteur, je suis là parce que je fais office, je fais fonction. Jusqu'au jour où il y a une jeune fille qui travaillait avec nous et avec qui on travaillait vraiment bien, et elle me dit à un moment... Et c'était, elle dit de la louange et elle s'occupait des jeunes. Elle me dit, mais PS, il faut que tu comprennes... Pardon, Pierre Samuel, tout le monde sait que je m'appelle PS. Hein, voilà. Elle me dit, PS, il faut que tu comprennes que tu dois prendre ta place de pasteur parce que les gens ont besoin de voir ce que tu es. Et quand t'es le pasteur, t'es le pasteur, point barre. C'est pas une question d'être au-dessus des autres, c'est une question d'être à l'endroit où tu dois être. J'ai trouvé cette parole très empreinte de sagesse. Parce que la réalité, c'est que les gens avaient besoin aussi d'un repère à ce moment-là. Et si même moi, je ne me considérais pas légitime aux yeux des hommes, Dieu, lui, avait décidé autrement, parce que moi, je n'avais pas décidé que l'autre y parte. Comprenez bien par là que Dieu décide sur ta vie et a fait un choix sur ta vie et te donne une légitimité qui fait que tu n'es plus, c'est ce que dit le texte, je ne vous appelle plus les serviteurs, mais je vous appelle amis, j'ai choisi que tu entres dans le plan de Dieu. S'il te plaît, arrête de dire que tu n'as pas les compétences, que tu n'as pas les capacités, parce que c'est vrai, mais parce que c'est Dieu qui va te les donner. Amen. Accueillir le plan de Dieu passe par une acceptation que tu es issu d'un choix divin. Tu es le choix de Dieu. Tu as le droit, au même titre que le peuple d'Israël, d'être au bénéfice du travail que Dieu a prévu. Comprenez bien, les deux groupes sont appelés à travailler dans la vigne. Sous-entendu, on a tous part au plan de Dieu, à l'héritage de Dieu. Il faut qu'on y aille. Tu es donc légitime pour être un acteur du plan de Dieu. Est-ce qu'il y a des acteurs et des actrices ici du plan de Dieu ? Amen. Et si tu n'as pas levé la main et que tu doutes encore, je te le dis, tu es légitime parce que Dieu t'a choisi. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, Dieu a dit, lui, je vais l'utiliser. Amen. Mais ça va aller plus loin. Le troisième principe que j'aimerais développer avec vous, c'est que accueillir le plan de Dieu n'est pas une question de faire, mais d'être. Je m'explique. Le texte continue en nous parlant de deux attitudes. D'un côté, il y a celui qui dit « je ne veux pas », mais qui au final y va. Et de l'autre côté, il y a celui qui dit « j'y vais », mais au final, il n'y va pas. Dans ce texte, on retrouve le contexte biblique où on voit les principaux sacrificateurs qui avaient la possibilité d'entrer dans le plan de Dieu à travers l'arrivée du Messie, Jésus-Christ. Mais comme Jésus ne correspond pas exactement à ce que les prophéties sont en train de dire, en tout cas, ça, c'est bizarre, ça ressemble pas exactement pareil, quoique quand tu lis en détail, c'est exactement pareil, mais eux ne pensaient que ça ressemblait pas exactement pareil, ils ont douté de l'autorité de Jésus, et donc ne rentrent pas pleinement dans cette nouvelle alliance que Jésus trace. De l'autre côté, on a les publicains et les prostituées, qui eux, ne méritent rien, en tout cas aux yeux des hommes. Mais qui semble même en dehors du plan de Dieu. Mais au final, après la repentance, ils vont entrer pleinement dans le plan de Dieu. Et vous savez, Paul va énormément prêcher. Par exemple, quand il dit aux Galates, il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et le texte nous dit, vous êtes tous. Ce n'est pas vous faites tous, c'est vous êtes tous. La réalité, c'est que quand tu entres dans le plan de Dieu, Dieu ne te demande pas de faire, Dieu te demande d'être ce que lui a prévu que tu sois. Tu peux être ce bon chrétien qui, chaque dimanche, est prêt à l'heure, connaît les Écritures, est fidèle à ce que la Bible dit, sans pour autant entrer pleinement dans le plan que Dieu a tracé pour toi. Pourquoi ? Parce que le fait de travailler avec des fonctionnements habituels, je viens à l'église tous les dimanches, je lis ma Bible tous les jours, je prie 3 fois par jour, qui sont des bonnes choses en soi, est plus rassurant que d'entrer dans le plan parfois déstabilisant de Dieu qui dit « mais wow, qu'est-ce qui va m'arriver à partir de ce moment-là » La réalité, c'est que les pharisiens, les sacrificateurs, etc., sont plus rassurés quand il y a les lois, quand il y a les règles, que de rentrer dans ce plan avec ce Jésus qui est déstabilisant, parce qu'il ne fait rien comme tout le monde. Tu peux être ce genre de chrétien-là. Et je voudrais vraiment t'inviter à sortir de ce qui te rassure, sortir de ta zone de confort pour entrer pleinement dans le plan de Dieu. Et tu vas voir et tu vas expérimenter des choses que tu n'as jamais vécues. Mais tu peux être aussi celui qui dit « je ne mérite pas d'entrer dans le plan de Dieu. Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas le cœur, je ne suis pas comme ces pasteurs qui sont extraordinaires. » Mais on n'est pas extraordinaires, hein. Entre nous. Hein. On a des luttes et des combats comme vous. Hein. Michel, tu es d'accord avec moi ? Ok. Mais quand tu reviens à Dieu, il te dit mais viens, repens-toi et viens, rentre dans le plan de Dieu. Et tu peux rentrer librement dans le plan de Dieu. Accueillir le plan de Dieu, c'est donc comprendre que parfois, tu ne te sens pas légitime, mais que tu rentres uniquement par la grâce de Dieu. Il n'y a que ça qui te fait accomplir le plan de Dieu. C'est donc pas une question de faire. C'est pas une question de faire. Tu peux faire plein de trucs. Mais c'est une question d'être au fond de ton cœur. De dire, oui Seigneur, je ne suis peut-être pas légitime aux yeux des hommes, mais à tes yeux, Je veux être celui que tu veux que je sois. Je suis ton enfant. Amen. Le point suivant, numéro 4. Accueillir le plan de Dieu n'est pas du fatalisme. Et j'explique pourquoi je dis ça. Parce que parfois, et j'ai déjà entendu, oui, de toute façon, on ne peut rien y faire, Dieu a choisi pour moi. Ou est-ce que j'ai choisi de passer par ces étapes-là de ma vie? Ou, dans tous les cas, c'est comme ça. Il y a une autre religion qui dit, Inch'Allah. Mais je réfléchis et je me dis, ok, est-ce que ça veut dire que je suis un robot, que Dieu manipule comme il le veut, et qu'au final, j'ai rien à dire, rien à faire, rien à... Je ne crois pas. Regardez ce qui va se passer. Dans le texte, les premières personnes disent « Non, je n'y vais pas ». J'aimerais m'arrêter sur ces gens-là. Combien de textes vous avez déjà lus de David, par exemple, qui expriment toutes ses inquiétudes, ses souffrances, ses incompréhensions face au plan de Dieu ? Combien de textes vous trouvez dans la Bible où David est en train de dire « Je comprends rien ». Où il exprime ses émotions, il fait ressortir ce qu'il vit au quotidien. Et parfois, on va croire que c'est comme ça, alors Dieu a dit, alors j'ai pas le droit d'avoir d'émotions, de sentiments, etc. Mais t'as le droit d'exprimer que tu comprends pas le plan de Dieu. Le seul danger, c'est quand tu restes dans cette attitude. Tu as le droit de dire, David le disait lui-même, et je vais plus loin, qu'est-ce que Jésus dit dans le jardin de Gethsémané ? Il y en a qui connaissent le jardin de Gethsémané, c'est juste avant la croix. Jésus, qui connaît parfaitement le plan de Dieu, qui sait ce qui va se passer, il dit quand même, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Jésus doute-t-il du plan de Dieu ? Non, mais Jésus a des émotions, comme toi et moi. Jésus a accepté le plan parce qu'il savait l'impact qu'il aurait sur le monde. Ce n'est pas du fatalisme, il a choisi d'y participer. Et j'aimerais te dire que parfois, dans ta vie, il y a des émotions, des sentiments, et on n'est pas obligé de les éteindre sous un prétexte de dire que c'est comme ça et c'est pas autrement. Dieu connaît ce qu'il y a au fond de ton cœur et tes doutes et tes inquiétudes. Je t'assure que Dieu te sait. Dieu te connaît même mieux que toi-même. Et Dieu a un plan extraordinaire. Regardez, je vous donne un exemple. Tout le monde connaît Joseph dans la Bible. Pas le Joseph de l'Ancien Testament, mais le Joseph du Nouveau Testament. La Bible nous dit, après la mort du roi Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph, en Égypte. Et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Ok, c'est simple. Il est parti en Égypte et maintenant il rentre. Le plan de Dieu est très simple. Ça va ? Allez, retour. Rien de bien compliqué jusque-là. Et puis, la suite est assez interpellante. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. Ok, Joseph, il obéit. Très bien. Mais il apprit que Archélaüs était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode. Il eut donc peur de s'y installer et averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. Ainsi se réalisa cette parole des prophètes, on l'appellera le Nazaréen. Et là, moi je bug dans ma tête. Je me dis, Dieu lui dit, tu y retournes. Il y retourne. Mais il a peur, il n'y retourne pas vraiment, mais avec cette peur, il accomplit le plan de Dieu. Alors qu'il n'est pas vraiment retourné là où il... C'est quoi le délire ? Je comprends pas. Enfin, du coup j'ai analysé, je me suis dit dans ma vie, c'est peut-être des choses qui vont m'arriver. Est-ce que Joseph accomplit le plan de Dieu ici ? On a le droit de répondre ensemble. Est-ce que Joseph accomplit le plan de Dieu ici ? Amen. Ok, on est d'accord tous. Est-ce que Dieu a négligé la peur de Joseph ? Est-ce que Dieu n'a même pas utilisé la peur de Joseph pour accomplir son plan, pour que Jésus soit appelé le Nazaréen ? Comprenez bien là où je veux vous emmener. C'est qu'au fond, Dieu peut même utiliser tes sentiments, tes émotions, tes inquiétudes pour venir te rassurer à travers des paroles précises et te dire, même si tu doutes, même si tu as des inquiétudes, le plan de Dieu, je suis là, je t'accompagne et je ne te laisse pas. Et Dieu n'a jamais dit qu'il nous dénuait de toutes nos émotions et nos sentiments. Ce n'est pas mon Dieu, ça. Dieu te connaît dans ce que tu vis. Accueillir le plan de Dieu va nous défier personnellement, va nous amener à aller plus en profondeur en termes d'analyse de ce que nous voulons comme vie. Amen. Parfois, c'est bizarre le plan de Dieu. Hein. Amen. Oui, ok. Le point suivant est le numéro 5. Accueillir le plan de Dieu implique une transformation de notre mode de pensée. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? J'ai que 7 points, je vous promets, après j'arrête. Le texte va nous parler ensuite de la différence entre les principaux sacrificateurs et les publicains. Donc les deux groupes, vous comprenez, vous me suivez bien. Alors que Jean est venu prêcher la repentance, la justice par Christ, le baptême de repentance, certains vont douter de l'autorité de Jean. Mais Jésus, parce que c'est ça qui se passe au début. Hein. De qui vient le baptême? Qu'est-ce qu'on fait du baptême de Jean? Est-ce qu'il est valable, pas valable, etc. Et Jésus est en train de dire, il va confirmer l'autorité, la légitimité de Jean, comme celui qui ouvre la voie vers Jésus. Ça va, je ne vous ai pas perdu? À nouveau, on retrouve la notion d'autorité légitimée par Christ lui-même. Les publicains et les gens de mauvaise vie ont accepté de croire que dans ce que Dieu avait établi comme étant légitime. Je vais aller plus loin maintenant. Évidemment, quand tu réfléchis, tu vois que Jean qui arrive et qui va être celui qui va ouvrir la voie vers Jésus-Christ, c'est un peu bizarre comme plan. Un gars qui mange des sauterelles et qui habite dans le désert et qui est vêtu de peau, c'est pas super rassurant en termes d'accomplissement du plan de Dieu. Et pour les Juifs, pour certains en tout cas, il y a un vrai doute. Est-ce que vraiment Jean est légitime? Mais Christ, lui, va légitimer. Il va dire oui, s'il fallait passer par là, par le baptême de repentance. Et je crois, l'analyse que j'en fais pour ma vie, c'est que parfois, Dieu nous fait passer par des chemins qui sont profondément déstabilisants pour nous amener à vraiment réfléchir sur la façon dont Dieu fonctionne dans nos vies. Pour nous amener à transformer notre façon de penser, arrêter de fonctionner dans des schémas, mais commencer à travailler l'intérieur de notre mode de pensée pour faire tomber nos raisonnements et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce qui ne ressemble pas forcément à ce qu'on vit au quotidien. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On a besoin, pour entrer et accueillir le plan de Dieu, de changer ce qui se passe là-dedans. Parce qu'on a tellement de raisonnements, tellement de modes de pensée qu'il faut un moment que ça tombe. Le texte n'est pas en train de dire que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Elle l'est, évidemment. Mais le texte ici qu'on lit, dans une autre version, nous dit « Nous devons, en réalité, se laisser entièrement transformer par le renouvellement de notre mentalité, adopter une attitude intérieure différente, donner à nos pensées une nouvelle orientation, afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. » Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. C'est le même texte qui est affiché ici, mais en version parole vivante. Accueillir le plan de Dieu, c'est dire « J'accepte que Dieu vienne transformer mon mode de pensée pour que je rentre pleinement là où il veut que je rentre. » Et pour cela, il y a un moment, il faut apprendre à lâcher prise. Il faut apprendre à dire « J'arrête de tout contrôler dans ma vie. » Je peux vous donner un exemple? Il y a un moment dans ma vie où on a quitté Saint-Dizier. C'était la ville où j'étais prof dans ma première mutation et on était à Besançon. Quand j'ai quitté Saint-Dizier, j'ai quitté une maison pas trop chère. J'ai quitté une église que j'aimais profondément. J'ai quitté un poste en lycée, qui était un des meilleurs postes de toute la ville, pour aller dans une ville que je ne connais pas, dans une église que je ne connais pas, et dans un poste encore plus difficile que celui que j'ai eu avant. Et là, tu te dis, Seigneur, c'est quoi ton mode de pensée là? Parce que moi, je ne comprends pas trop, en fait. Accessoirement, mon épouse a quitté un stage qui allait certainement déboucher sur un travail. On a quitté une stabilité pour entrer dans un état d'instabilité. Et quand tu es dans une passe d'instabilité, c'est très compliqué. Beaucoup de questions se posent. Est-ce qu'il y en a qui passent par des phases d'instabilité maintenant dans leur vie? C'est compliqué. Hein, tu te dis, mais je ne suis pas bien, je ne suis pas à l'aise. La réalité, c'est que j'ai dû aussi apprendre que si Dieu a fermé certaines portes et en a ouvert d'autres, c'est parce qu'il sait que là où je vais entrer, c'est exactement le plan qu'il a prévu pour moi. Et je dois absolument changer mon mode de pensée pour comprendre que ce n'est pas moi qui dois contrôler les circonstances, mais c'est Dieu qui les contrôle pour moi. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Dieu a ouvert toutes les portes des mutations, des points qui j'avais besoin pour muter. Les profs, vous savez ici qu'il faut des points pour muter. Et je n'avais pas le nombre de points requis. Dieu a ouvert toutes les portes. Dieu, jusqu'à ce que j'arrive à Besançon et que je rentre dans le plan de Dieu. Qui fait qu'au bout de quelques années, j'ai quitté mon boulot de prof et je suis rentré à pasteur à temps plein. Le plan de Dieu prend parfois des tournures un peu bizarres. Mais quand tu lâches entre les mains de Dieu ta vie, ce que tu retiens comme étant des zones de sécurité, tu peux accueillir vraiment le plan de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu tiens avec ta main? Qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'entrer là où Dieu veut que tu rentres? C'est une question que je te laisse. En tout cas, moi, ce n'était pas forcément évident. On a dû travailler en couple aussi sur ça. Parce que ce n'est pas facile quand tu es tout seul. Mais avec des convictions que Dieu nous a données, on a été là où Dieu nous a dit d'aller. Et on a vécu des miracles, des choses extraordinaires. Au final, c'est le point suivant. Accueillir le plan de Dieu, c'est une question de foi. Le texte nous dit que les publicains ont cru au baptême de Jean. Vous êtes toujours avec moi? Ils ont cru. Il y a une question de foi, en fait. Et la foi, c'est quoi? Qui c'est qui a roulé ce matin, qui a pris sa voiture pour venir? Ok, on a tous eu ce moment de brouillard un peu bizarre? Oui? Ok. Moi, je suis sorti de Geispolsheim. Freddy, tu confirmes que sur la route qui va vers l'autoroute, 50 mètres maximum, 100 mètres quand tu as des bonnes lunettes et encore. La visibilité. Mais quand tu sais que tu vas à l'épi, tu connais le chemin. Donc, tu sais que même s'il y a du brouillard, tu marches un peu par la foi, mais tu sais où tu vas. Bon, ok, c'est facile pour cet exemple-là. Maintenant, quand tu ne sais pas exactement où tu vas, c'est plus compliqué. Donc, la meilleure des solutions au final, c'est que tu descends de la voiture, tu te mets ton passager en mode passager, et puis tu laisses le volant à Dieu. Parce que lui, dans le brouillard, il a un GPS divin. Amen à ça? Dans le brouillard, il voit. Okay. Anne, elle nous racontait une histoire, elle est revenue il n'y a pas longtemps en avion du sud vers Strasbourg et puis elle est passée dans cette nappe de brouillard. Et elle dit, c'est fou parce que l'avion, il atterrit. Tu te dis, mais il va cracher. Il passe à travers tout et d'un coup, tu sens boum et t'as atterri. Pourquoi? Parce qu'il y a un recul qui est au-dessus et puis il y a des GPS, il y a des outils. Et bien Dieu, c'est exactement ça dans ta vie. Il gère ta vie si tu es prêt à le laisser conduire. Mais il y a une part de foi. Est-ce que tu veux toujours être du côté passager ou est-ce que tu veux continuer à maintenir ton volant? Ok, t'as le droit de maintenir ton volant. Mais je t'avoue que quand t'es du côté passager, c'est plus rassurant. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Oui, c'est déstabilisant, je vous l'accorde. Mais la foi nous permet de nous reposer dans ce que Dieu considère comme bon pour toi et pour moi. Même si on est déstabilisé, la foi va te pousser dans des retranchements. Mais la foi t'amènera toujours dans une relation d'intimité plus profonde avec Dieu. Amen. Septième et dernier point. Accueillir le plan de Dieu a forcément des conséquences. La Bible nous dit dans le texte qu'on a lu au départ qu'il y a ceux qui vont aller travailler dans la vigne et ceux qui ne vont pas travailler dans la vigne et qu'au final, ceux qui ont été travaillés dans la vigne vont devancer les autres dans le royaume de Dieu. Comprenez bien et comprenons bien ensemble que quand tu refuses d'entrer dans le plan de Dieu, instantanément, ça met des blocages sur ta vie. Quand tu bloques sur ce que Dieu est en train de faire sur ta vie, instantanément, tu ne peux pas aller plus loin. Je le dis avec tout mon cœur, hein, mais on va lire ce texte de Matthieu 7, 17, qui nous dit « Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il y a une grande vérité biblique, chers amis, ce matin. C'est quand tu choisis d'entrer dans le plan de Dieu, tu va vers le chemin que Dieu a tracé pour vivre le royaume de Dieu au quotidien. Et bien souvent, on vit des moments de crise, de doute, d'inquiétude, simplement parce qu'on n'accepte pas le chemin par lequel Dieu est en train de nous faire passer. Je ne dis pas que c'est facile. Vraiment, si vous saviez les chemins par lesquels on est passé. Mais quand on accepte vraiment le plan de Dieu, tu vis le royaume de Dieu sur la terre. Je crois que le royaume de Dieu est à la fois ce qu'on va vivre quand on sera là-bas, mais c'est aussi sur la terre. Parce que Christ nous dit « le royaume de Dieu s'est approché ». Je crois qu'on peut vivre une vie de plénitude ici sur cette terre. Je crois qu'on peut vivre dans l'abondance Pas forcément de tous les besoins matériels, tout ce que tu veux, mais dans l'abondance du cœur. Je crois que la Bible nous dit que des fleuves d'eau vive couleront de notre sein, et pas simplement une petite rivière. Je crois que le chrétien n'est pas appelé à subir sa vie, mais à vivre sa vie. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu va t'amener, va t'accompagner, va te porter. Et c'est ce qu'on a vécu au quotidien dans les choix qu'on a fait avec mon épouse. C'était pas sans difficulté. Mais accueillir le plan de Dieu n'est pas simplement une succession d'étapes imposées. C'est décider que ces étapes vont te construire, vont te faire progresser, vont t'amener plus proche de Dieu. Amen. Oui, le plan de Dieu est extraordinaire pour chacune de nos vies. Et même si des fois on a du mal à comprendre, derrière tout ça, Dieu te rapproche de lui. C'est son unique but. Je peux vous partager une expérience ? Ok, je me dévoile un peu, mais c'est pas grave, vous m'en voulez pas. Je suis un peu comme ça aussi. Tout le monde sait, beaucoup savent ici, que mon épouse a des soucis de santé assez compliqués en termes de dos. Elle a une première opération, ça s'est mal passé, une deuxième opération, et après quelques mois, c'est revenu, on a fait des médecins, on a essayé de tous les côtés, on s'est posé beaucoup de questions. Ça m'empêche pas de continuer à prier pour la guérison, ça m'empêche pas de prêcher sur la guérison, mais quand t'es pas guéri dans ta propre famille, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Ok ? Je suis authentique avec vous, je vous le dis, il y a des moments où tu doutes, et pasteur ou pas pasteur. Et tu dis, mais Seigneur, c'est quoi le plan de Dieu dans tout ça ? Pourquoi mon épouse est bloquée ? Et elle y est pour rien ? Est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal ? Non. On va arrêter d'avoir aussi cette conclusion toujours hâtive de dire que c'est parce que tu as fait quelque chose de mal que Dieu te sanctionne. Non, elle suit fidèlement Dieu, elle prie, elle passe du temps dans la présence de Dieu. Et on a prié, on a dit, Seigneur, quand viendra la guérison ? Et ça a été des moments compliqués. Mais souvent, elle m'a dit, mais tu sais, PS, j'ai jamais autant vécu la présence de Dieu que dans ces moments où tu es cloué au lit. Parce que tu n'as qu'une chose à faire, c'est de prier. Tout ce que peuvent te dire les gens, c'est compliqué à vivre. Et on est passé dans ces phases-là. Ça a été des moments, ça fait pendant 3 ans, ça a commencé, ouais, il y a au moins 3 ans. Et tu es là et tu luttes et tu dis, mais Seigneur, je prie. Et puis, tu as les gens qui prient pour toi. Et qui disent, mais on comprend pas, mais on prie quand même. Et t'as des gens qui t'accompagnent, qui t'encouragent, et c'est extraordinaire. Et puis, il vient de se passer un truc de fou furieux, et je veux vraiment vous le témoigner. Comme quoi, le plan de Dieu, il ressemble vraiment pas à ce que toi t'as imaginé dans ta tête. Voilà moi ce que j'ai imaginé. Un jour elle vient, quelqu'un prie pour elle, elle est guérie, elle repart. Ça, c'était ce que j'avais imaginé. Parce que Dieu nous avait promis la guérison. J'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle ce matin. Mon épouse est enceinte du 4e. Wouhou ! Ok, vous applaudissez. Moi, j'ai pas applaudi. Parce qu'au moment où j'apprends ça, je me dis, comment on va faire ? Parce que qui c'est qui va le porter, le bébé ? Enfin, soyons pragmatiques. Quand ta femme, elle peut pas se lever les nuits, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Okay, tous les parents ici sont là, ils se disent ah, « J'ai bien compris ce que tu veux dire, là. » Et on priait, on dit « Seigneur, ça va être compliqué, c'était pas prévu. » Et on se dit « Mais Seigneur, au début, t'as du mal à le voir comme un sujet de joie, je vous le dis honnêtement, je vous partage vraiment, c'était pas un sujet de joie. C'était plutôt un sujet d'inquiétude. Même si on s'est dit « Bon, les trois vont bien, on a la grâce d'avoir les enfants, etc. » C'est une grâce et c'est, de toute façon, c'est Dieu qui choisit dans cette histoire-là. C'est Dieu qui donne la vie. Et puis on prie dans ce sens-là et c'est tout. Et puis, on a rendez-vous en décembre chez un médecin à Haute-Pierre qui est un spécialiste du dos dans un centre qui s'appelle le centre antidouleur. Le centre antidouleur, c'est une zone où quand la plupart des médecins n'ont pas trouvé une solution, on vous envoie là. Et on arrive là-bas et puis il faut savoir que mon épouse était sous traitement assez carabiné pour les douleurs, etc. Et on arrive là-bas et la première chose qu'on lui dit, c'est qu'il y a une donne en plus maintenant. C'est qu'en termes de traitement, il va falloir calmer le jeu parce qu'elle est enceinte et que les traitements ne sont pas compatibles avec la grossesse. Donc ça veut dire, dans notre tête à nous, les douleurs qui reviennent, bon, vous imaginez tout ce que ça peut produire. Puis le médecin l'ausculte, il nous explique vraiment très très bien, j'ai vraiment apprécié ce médecin, il nous explique tout le processus, pourquoi ça ne revient pas tout de suite, pourquoi il faut attendre, pourquoi il faut encore patienter, c'est normal, etc. Puis, il dit, mais j'aimerais juste vous dire quelque chose. Le fait que votre femme elle soit enceinte, c'est la meilleure nouvelle que vous pouvez m'annoncer. Pourquoi ? Parce que les hormones qui se développent dans la grossesse accélèrent le processus de guérison. Aujourd'hui, ma femme n'a plus aucune douleur de dos. Va comprendre le plan de Dieu là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu ne fait pas toujours de la même façon? Ça serait tellement plus simple. Mais quand tu vis ça, tu te dis, mais waouh, Dieu, t'es juste énorme. Le plan de Dieu, il est énorme. Et je dis ça avec tout ce que je peux mesurer de ce que ça veut dire quand ta femme, elle ne peut pas se lever le matin tellement elle a mal au dos. Et qu'aujourd'hui, elle se dit, je fais la journée et je bénis Dieu parce que j'ai fait la journée entière. Pourquoi Dieu a-t-il utilisé ce moyen-là qui, toi, t'inquiète? Parce que juste Dieu sait comment il fonctionne avec moi et avec ma femme. Alors tous ceux qui pensent qu'il faut que j'en ai 5 ou 6 derrière, vous vous calmez tout de suite, d'accord? C'est pas l'idée non plus. Je veux pas rejoindre mes parents. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a expérimenté le miracle juste différemment. De ce que Dieu, en tout cas de ce que j'ai, mon raisonnement à moi. Je vous partage ça avec beaucoup d'humilité et je pense à tous ceux qui sont dans la souffrance, dans la difficulté, dans la maladie. Oui, on ne comprend pas forcément toujours le plan de Dieu, mais Dieu a une solution, c'est sûr. Et Dieu est encore le Dieu qui guérit aujourd'hui. Je vais inviter l'équipe de musiciens à me rejoindre. On a partagé ensemble les 7 points qui nous amènent à accueillir le plan de Dieu. On a vu ensemble qu'accueillir le plan de Dieu, c'est accueillir l'autorité de Jésus dans notre vie. Accueillir le plan de Dieu, ce n'est pas une question de légitimité humaine, mais de choix divin. Accueillir le plan de Dieu n'est pas une question de faire, mais d'être. Accueillir le plan de Dieu n'est pas du fatalisme. Accueillir le plan de Dieu implique une transformation de notre mode de pensée. Et enfin, accueillir le plan de Dieu est une question de foi. Et accueillir le plan de Dieu a des conséquences. J'aimerais juste qu'on puisse fermer les yeux un instant. Et qu'on puisse réfléchir à ce qu'on vient de partager ensemble. Ce matin, je ne te demande pas de comprendre le plan de Dieu. Je te demande est-ce que tu es prêt à l'accueillir par la foi? Je te demande pas et je te donnerai pas d'explication à tout ce que tu vis. J'en ai pas, il n'y a que Dieu qui les a. Mais est-ce que tu es prêt à vraiment accueillir le plan de Dieu? Et dire, Seigneur, le chemin par lequel je suis en train de passer, aussi difficile qu'il soit, ou facile, ou les bons moments comme les mauvais. Seigneur, par la foi, je veux dire que tu connais ma vie. Je veux à nouveau me confier et me laisser tomber dans les bras du Père. Je veux découvrir le secours de Dieu au sein de mes difficultés. J'ai besoin de redécouvrir l'amour du Père. J'ai besoin de me laisser transformer dans mon mode de pensée. J'ai besoin de comprendre. Mais avant de comprendre, je veux juste marcher par la foi. Est-ce que ce matin, on est prêt à dire, Seigneur, je te donne tout. Je te donne mon plan, je te donne ma vie, je te donne ce qui va se passer. Même je te donne ma maladie, je te donne ma suite. Est-ce que ce matin, tu veux dire à Dieu, mais Seigneur, je veux être prêt à tout te donner, même si je ne comprends pas. Je vous dis que ce n'est pas facile, mais je vous dis que c'est un pas de foi qui va vous libérer. Quand tu accueilles le plan de Dieu, il y a des choses qui te libèrent. Il y a des moments où c'est comme Dieu te dit, maintenant, je prends le relais sur ta vie. Et je t'accompagnerai dans les moments. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Et à tous ceux qui veulent dire, Seigneur, ce matin, je veux accueillir le plan de Dieu, je veux marcher par la foi et pas par la vue, malgré les circonstances. Bon, est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? Et dire, Seigneur, on va chanter ce chant ensemble qui nous dit, je te donne tout. J'abandonne tout. Prends ma vie. Et je veux vraiment vous encourager à pas le chanter comme un chant qu'on connaît bien, mais à chanter comme un pas de foi, même si tu ne comprends pas ta vie. Je peux t'assurer que tu vas sentir le secours de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la fidélité de Dieu dans les circonstances par lesquelles tu passes.